On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
Bonjour. On va déguster reste ouvert pendant l'été et on va vous le prouver en versant dans vos verres un vin bien de saison, le rosé. Certains pointus du goulot le détestent, au prétexte que ce n'est pas du vin, et les buveurs plus décontractés apprécient sa goulayance et son côté rafraîchissant. Le vin rosé, une passion française, c'était une émission que nous diffusions l'été dernier. Bon appétit et large soif.
On y va pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu goûtes ça.
Bonjour. Je voudrais savoir comment fabrique-t-on le vin rosé?
La Commission européenne a en tout cas annoncé hier qu'elle renonçait finalement à autoriser la fabrication de vin rosé en coupant du blanc et du rouge.
On s'est beaucoup éloigné d'une vinification de type de rouge et on les vinifie plus comme des blancs. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de macération de la peau et des jus, mais on presse directement les baies de manière à avoir des jus plus clairs et des rosés plus légers.
Il n'y a pas des classements, des grandes crues, des machins. C'est un vin simple.
C'est un vin qui a longtemps été décrié et puis aujourd'hui c'est un vin qui revient énormément à la mode.
On est sur des notes alors, un peu violettes, un peu fraisia. Fruits, on est sur une palette fraises des bois, framboises.
Bonne dégustation.
Bonne dégustation.
Bonjour à toutes et tous. Les vins rosés. La France en est le premier producteur, le premier exportateur et le premier consommateur au monde, d'où les nombreuses questions qu'on se pose sur le rosé. Comment le fabrique-t-on? Quelle est la différence entre un rosé de supermarché à 2,75€ et un rosé de vigneron artisan? Pourquoi certains des chroniqueurs dont on va déguster sont fâchés avec le rosé de Provence? Il y en a un qui s'en visait sur ma droite. C'est Jérôme Gagnès, bonjour.
Bonjour.
Vous allez clarifier votre position, cher Jérôme, sur les vins rosés de Provence. Vous en aurez l'occasion.
Oui, et puis surtout, je vais vous donner deux coups de cœur.
Deux coups de cœur de vin rosé.
De vin rosé.
Pour en profiter pendant l'été.
Exactement.
Avec modération, évidemment.
Qui restera à la cuisine.
Vous êtes insupportable, ça commence. Frédéric Vaquet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vigneronne à la tête du domaine Vaquet dans les Pyrénées-Orientales sur le très beau terroir des...
Très beau terroir des Aspres.
Aspres, absolument. Et vous faites du rosé en Côte-du-Roussillon. Et ce rosé ne passe pas inaperçu auprès des amateurs de vin. C'est d'ailleurs notre ami Jérôme Gagnès qui nous l'a conseillé. Vous allez nous le faire goûter. Et quand, chers auditeurs, vous découvrirez son prix, on n'en dit pas plus, mais on va le déguster assez vite dans cette émission.
Ce sera avec grand plaisir.
Merci Frédéric. Yves Legrand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à la tête d'une maison historique, le Chemin des Vignes, qui fête quand même son centenaire. Le centenaire de son installation, c'est à Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine. Et vous êtes par ailleurs président du syndicat des cavistes professionnels.
Exact.
On salue ce syndicat.
Merci. Et je salue mes confrères.
Et vous avez également, bien entendu, dans votre besace, des cuvées rosées à nous conseiller qu'on va déboucher avec vous tout à l'heure. Avec nous également notre chroniqueuse, Estherelle Pagani, bonjour.
Bonjour.
Qui n'aimait pas trop le rosé, enfin ça c'était avant cette émission.
J'espère que vous allez me convaincre et c'est pas parce que je ne l'aime pas que je souhaite le gâcher.
Voilà, petite leçon de cuisine et tour de main pour recycler les fonds de bouteilles. À la technique, Alexandre Chenet, Nadia Chougui pour la préparation de l'émission et Djoubaka pour la programmation musicale. Une question sur les vins rosés, une petite cuvée à nous conseiller? Eh bien, il suffit d'envoyer un mail. On va déguster à radiofrance.com ou on peut réagir avec le hashtag on va déguster sur Twitter. Nos meilleures cuvées de vins rosés, nos infos pratiques, le podcast de l'émission sont à retrouver sur franceinter.fr à la page on va déguster.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
Le bruit salutaire du bouchon qui saute juste avant de déboucher nos rosés de l'été, justement. Un gros, gros, gros coup de cœur. Pour un certain Monsieur P. Derrière ce nom mystérieux se cache une belle histoire de gastronomie, l'histoire de Florent Poulard. P, d'où Monsieur P. Un chef lyonnais de 27 ans dont le talent commence à éclabousser la capitale des Gaules, ou plutôt la capitale des Gueules, comme aimait à surnommer Lyon Paul Bocuse. Naissance à l'Hôtel-Dieu à Lyon. Enfance dans les monts du Lyonnais, gros problème d'obésité jusqu'à l'adolescence. Et la thérapie de Florent Poulard, ce jeune chef de 27 ans, pour se sortir de l'obésité, eh bien ce fut le goût, les bonnes choses, la cuisine d'élite. Le garçon s'est jeté à corps perdu dans les marmites. Il a travaillé chez Guy Savoy et Alain Passard à Paris. Il a également travaillé chez Daniel Boulu à New York. Il ouvre son premier restaurant il y a quelques mois, à Lyon, au 14 rue Royale. Est-ce que cette adresse dit quelque chose à quelqu'un ?
Oui, c'est la porte à côté, il me semble, de la mer Brasier.
Belle culture gastronomique.
La rue Royale.
Ça, elle, absolument, puisque évidemment Eugénie Brasier, la fameuse mère lyonnaise, avait ouvert en 1921 au 12 rue Royale. Tout à fait. Et bien au 14, c'est pas anodin comme adresse quand même, c'est Florent Poulard qui s'y colle. Pour le décor, il s'inspire de l'atmosphère campagnarde de sa maison de famille dans les monts du Lyonnais. Pour sa cuisine, il source les meilleurs produits de la région, des viandes fermières de l'Ain, des légumes bio de l'Ardèche et de la Drôme, des vins de vignerons, artisans. J'ai bu un verre de éclat de granit. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un ?
Ça vient de chez Stéphane Sérol. C'est une côte rouennaise, c'est une merveille ça.
Un gamay pulpeux, gourmand, oui. En côte rouennaise, c'était tout à fait extraordinaire.
Grand vigneron.
Voilà, bon, on est tous d'accord. Et pour l'assiette, la cuisine de ce gaune de 27 ans est d'une précision redoutable et d'une grande maturité. Formule déjeuner à 22 € avec, en entrée, une joue de cochon d'Auvergne fermier. Il cuit ses joues de cochon dans un bouillon aromatique, un peu comme dans un pot-au-feu. Il presse ensuite la viande dans une sorte de terrine avec du poivre vert qui apporte beaucoup de rondeur et de fraîcheur. Le fondant de la viande, le croquant ensuite de petits légumes, des carottes, des navets glaçons qui sont tout autour. Je vous fais pas de dessin, c'était excellent. En plein, un faux filet de bœuf, de l'Ain, avec toute une panoplie de légumes de saison. Des légumes, encore une fois, vibrants de fraîcheur, cuits au cordeau avec précision. Et si vous voulez ajouter un dessert, ce sera un épatant millefeuille aux fruits rouges montés minutes. Voilà, allez vraiment encourager Florent Poulard. C'est le chef de Monsieur P, une adresse qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment à Lyon, au 14 rue Royale, Lyon 1er. Jérôme Gagnez, une actu que vous vouliez nous signaler.
Oui, très brièvement, un des plus grands terroirs de blanc de France, ça s'appelle le Coteau des Treilles en Anjou, défriché par Jo Piton, un très grand vigneron. Mmh. Et c'est aujourd'hui racheté par Yvan Massonnat. C'est un entrepreneur, c'est un fou de vin de Loire. Et je pense qu'il sera même de perpétuer et de poursuivre l'œuvre de Jo en créant la création et la production d'un très grand vin blanc. Issu d'un terroir, pour prendre une expression à la mode, un terroir de dingue.
Vous étiez au courant, Yves Legrand, de cette nouvelle ?
J'étais au courant.
Dans le mercato du Val-de-Loire.
En plus, moi je suis, j'ai été formé au Chenin de Loire, et je trouve d'ailleurs que le Chenin n'est pas reconnu à son niveau.
On est bien d'accord.
C'est pas normal que ce cépage qui peut vieillir plus de 100 ans... Mmh. Ne soit pas reconnu suffisamment.
Voilà, alors, on commence quand même à nouveau à le remettre au goût du jour.
Oui, mais il y a beaucoup de travail. Il est en perte de vitesse encore maintenant en Anjou. Et donc, gageons que Yvan Massonnat, par sa passion, saura perpétuer et développer l'œuvre de Jo Piton.
Je vous propose de passer au rosé, car à l'apéro, le rosé à la côte cet été. On en parle juste après. Nous sommes Sémiosec sur France Inter. À la vôtre, mais avec modération.
On n'a plus le temps de regarder comme ça le niveau de l'eau monter. On n'a plus le temps car on est déjà tout éclaboussé. On n'a plus le temps d'attendre que l'orage soit passé. On n'a plus le temps même si sous la pluie on sait danser. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui ne sont pas passés de loin à côté. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés, nous sommes de ceux qui l'ont un jour effleuré. On n'a plus le temps, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps car ce n'est plus possible de freiner. On n'a plus le temps car c'est comme si les jeux étaient déjà faits. On n'a plus le temps mais on fait comme si de rien n'était. On n'a plus le temps même si sous la pluie on sait danser. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui ne sont pas passés de loin à côté. Nous sommes survivants, nous sommes les rescapés, nous sommes de ceux qui l'ont un jour effleuré.
fois j'ai des écœurements du vin, je reste 5 mois ou 3 mois
tu
sans boire.
Tu vas en cure.
Je vais en cure, je reste 3 mois sans boire. En montagne par exemple, hein, quand j'étais en cure à Bride-les-Bains avec Patrick, on allait, on grimpait très haut. Et les goûts de vin dans la tête, les mémoires du vin, mais c'est hallucinant. J'ai jamais autant désiré un vin qu'à 3000 mètres d'altitude.
On va déguster les saveurs de l'été.
C'était Gérard Depardieu évoquant les sommets d'émotion que représente le vin. C'était au micro de Jean-Luc Hesse sur France Inter en 1993. Je vous propose de redescendre de notre montagne et de s'intéresser au vin rosé, devenu quand même, et là je me tourne vers mes invités, un phénomène planétaire. Juste deux chiffres qui vous illustrent le phénomène. Le vin rosé, c'est 8,5% de la production mondiale de vin. Et la consommation mondiale de vin rosé a cru de 31% au cours des 15 dernières années, au point d'ailleurs qu'on se demande, il y a des articles un peu partout dans la presse, je suis tombé notamment sur une coupure de presse des Échos, y aura-t-il assez de rosé cet été à cause d'une récolte du millésime 2017 assez modeste? Pénurie de rosé, est-ce que vous y croyez, Yves Legrand?
Non, il n'y aura pas pénurie de rosé. Je sais que on aime bien créer l'effroi, la peur, il n'y a pas pénurie de rosé.
Ah, vous pensez que c'est du lobbying?
Je ne sais pas si c'est du lobbying. En tout cas, moi je parle de certains rosés, ceux que j'adore, que je déguste, puisque effectivement il y a rosé et rosé. Mais très brièvement, le rosé aujourd'hui est tout à fait une mode qui correspond à la demande du consommateur pour deux raisons. D'abord parce que depuis une quarantaine d'années, on fait des vrais rosés, de la vigne pour faire du rosé. Et non pas simplement un surplus de vendange. Il faut complètement effacer l'image du mauvais rosé.
Surplus de vendange, expliquez-nous. Vous voulez dire que le rosé fut longtemps un jus par défaut. L'état sanitaire de certains raisins n'était pas suffisamment bon pour faire du rouge, donc on les transformait en rosé.
Jusque dans les années 80, on buvait principalement du rouge. Mm-hmm. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le premier vin au monde, ça a d'abord été un rosé. Voilà. Et le rosé était principalement consommé jusqu'au XVIIe siècle. D'accord. À Bordeaux, d'ailleurs, on l'appelait le clairette.
Oui.
Et le premier mot rosé, l'appellation vin rosé, mm-hmm. c'est un vigneron d'Argenteuil, au XVIIe siècle.
Donc c'est un vin historique.
C'est un vin historique. Donc le rosé revient avec ses lettres de noblesse, d'abord parce que grâce à la maîtrise des températures, Frédéric Vaquet en parlera, on a des vins, grâce à la maîtrise des températures et à l'hygiène, on fait des rosés. Aujourd'hui, pour faire court, le rosé est au même niveau que les grands rouges et les grands blancs.
Transition toute faite, précisément, vers le travail de Frédéric Vaquet, vigneronne. Il y en a de plus en plus, c'est une excellente nouvelle dans les vignes de France. Je vous propose pour entamer cette ou poursuivre cette discussion autour du vin rosé, eh bien tout simplement de commencer par un petit atelier de dégustation. Avec, oula, il l'a en main, oh joli, c'est le rosé de Dominique Vaquet. Frédéric, absolument, Frédéric Vaquet, pardonnez-moi, la couleur de ce rosé, comment pourriez-vous la définir?
Alors je dirais qu'on est sur un rosé qui a une très jolie couleur saumon avec des reflets légèrement saumonés, roses. Et la couleur nous donne l'impression d'être sur un vrai vin. Parce que pour moi, le rosé c'est un vrai vin qui est très difficile à vinifier parce que il faut, au contraire de ce que vous disiez, des raisins qui soient en parfait état sanitaire, qui soient très mûrs, gorgés de fruits, etc. Mais qui soient beaux.
On n'en dit pas trop parce que je voudrais que nos invités réagissent presque à l'aveugle, même si je crois, Yves Legrand, vous le connaissez.
Écoutez,
ce rosé.
À l'aveugle, non, parce que j'ai la chance d'avoir la vigneronne en face de moi.
Absolument.
Et je trouve qu'il y a quand même un lien entre la description du rosé que je pourrais faire et l'allure de la vigneronne. C'est un vin gourmand, c'est un vin plaisant, c'est un vin souriant. On a immédiatement un ressenti de joie, de bonheur et d'aller un petit peu plus loin.
Mmh. Qu'est-ce que vous diriez, Jérôme Gagnès? Sur cette cuvée éphémère, signée Frédéric Vaquet.
Bien, moi j'aime bien cette cuvée, je connais Frédéric depuis quelques temps. J'aime bien ce vin parce que j'aime bien ce rosé parce que c'est du vrai vin. C'est-à-dire qu'il y a de la chair, il y a du caractère, il y a du volume, il y a aussi de l'acidité. C'est-à-dire qu'on a le caractère assez charnu et gourmand d'un vin méridional et on a la fraîcheur d'une certaine acidité.
Jérôme, je t'appuie là-dessus, c'est désaltérant. Le vin doit d'abord être désaltérant.
Mais est-ce que pour autant on a le droit de dire, et c'est la première sensation que j'ai en bouche lorsque j'en bois une gorgée, qu'il est quand même vineux?
Exactement.
Il y a de la matière.
Mais c'est bien pour ça qu'on l'aime.
Il pourrait même être taillé pour la table,
oui,
et pas seulement
fait.
Pour l'apéritif, qui est évidemment le moment privilégié de la dégustation du rosé pendant l'été.
Non, c'est pour moi un vrai rosé gastronomique, un vrai rosé de repas, et on peut avoir des accords quelquefois un peu surprenants avec un chai catalan, par exemple, avec la charcuterie.
Avec
un chai.
Définition.
Alors, un chai XAI.
Oui.
C'est l'agneau catalan, et c'est une appellation d'origine du Roussillon. Et cet agneau justement est élevé d'une manière particulière, etc. Je rentrerai pas dans les détails, mais c'est un agneau de goût, de saveur, de texture, et avec le rosé tel que l'éphémère 2017 qu'on est en train de goûter, voire même avec l'éphémère 2016, parce que j'ai la particularité de garder des rosés quelques années, comme je garde certaines cuvées de rouge, l'exception depuis 2010, je garde du rosé, j'ai 2015, 2016, 2017, j'ai d'autres collègues qui le font aussi avec la Goudi, par exemple.
Votre rosé peut vieillir quelques années.
Oui, tout à fait.
Contrairement à une idée reçue selon laquelle le rosé pourrait être... un vin de consommation très direct, très immédiat.
Oui, alors ça sera vrai selon le mode de vinification.
D'accord.
Si on a des rosés avec certains cépages qui vont être beaucoup plus clairs et qui vont être vinifiés pour être bu assez rapidement, le côté très désaltérant, soif. Et là, bon, c'est un type de rosé. Ils existent aussi en Roussillon. Mais l'histoire du rosé du Roussillon, c'est des rosés qui sont déjà beaucoup plus colorés parce que nous avons des cépages qui donnent de la couleur, comme le Carignan, comme... le grenache, comme la Syrah.
Alors justement, on entrant un peu dans les coulisses de la fabrication de votre rosé.
Volontiers.
Celui-ci a de la couleur. On devine peut-être un peu de saignée. On va essayer d'expliquer justement ces termes un peu... Ben justement, ces termes un peu techniques. Esther, elle fait la grimace, mais il y a plusieurs méthodes de vinification du rosé.
Voilà, alors
le vôtre, il est assez pédagogique, puisque il est fait avec les deux méthodes de fabrication différentes.
Exactement. Et je vous rassure tout de suite, la saignée n'a rien de douloureux.
Qu'entend-on par rosé de saignée?
Alors, on imagine qu'on récolte du raisin rouge, on va les rafler.
Et là, en l'occurrence, c'est du grenache.
Du grenache, alors non, pour la saignée, ça sera Syrah et Carignan.
D'accord.
Nous récoltons la Syrah et le Carignan, éraflés et mis en cuve, comme si on imaginait vinifier un vin rouge.
Jusque-là, tout va bien.
C'est du cépage rouge à jus blanc.
C'est ça, oui. Tous les cépages qu'on utilise sont des cépages où la peau est rouge, le jus à l'intérieur est blanc, la chair est blanche.
Important.
Et c'est donc le contact de la peau du raisin avec le jus qui va petit à petit donner la couleur et les arômes. Donc on imagine qu'on laisse ces deux cépages dans une cuve pendant quelques heures ou une nuit. Ça dépendra de la maturité du raisin, ça dépendra du millésime, parce que même le rosé a une notion de millésime, c'est très important. Et au bout, soit de quelques heures, soit une nuit de contact, ce qu'on appelle macération, de contact du jus avec les grains de raisin, on va avoir un jus qui va se colorer, qui va se parfumer.
C'est ça, cette
saignée ? C'est ça. Et donc, au bout d'un certain temps, on va prendre une partie du jus qu'on va mettre à part et qu'on va vinifier à des températures plus basses pour avoir ce qu'on appelle un rosé de saignée.
Voilà, un rosé de saignée.
Là où Frédéric n'ose pas rajouter par humilité dans le travail qu'elle vient d'énoncer, c'est surtout l'art du vigneron au moment précis. Et ça, c'est lui qui décide.
C'est ça. C'est un long travail, mais beaucoup de dégustation. C'est-à-dire que c'est avec la dégustation, c'est pas uniquement des analyses, le vin. C'est une dégustation, c'est un suivi comme un enfant. On suit son vin comme on va suivre son enfant dans la vie.
Élève le vin.
On élève le vin, c'est pareil.
Saignée de Syrah et de Carignan pour faire cette cuvée éphémère. Mais là où les choses se compliquent un petit peu, c'est qu'il y a également du pressurage direct.
Du pressurage direct.
Du grenache.
Et, oui.
Et là, on est sur une autre méthode. Vous mêlez les deux, en quelque sorte.
Oui.
Pressurage direct ?
Alors, pressurage direct, on va récolter le grenache et on va le rentrer dans le pressoir. Donc, c'est un pressoir pneumatique qui permet d'avoir un pressurage très doux et de donner des jus qui ne sont pas du tout herbacés, qui sont très, très fins. Et on presse directement comme on imaginerait presser un vin blanc. Donc, forcément, comme on est sur un cépage rouge, c'est du grenache noir, je précise.
D'accord.
On peut aussi faire des pressurages directs de grenache gris, mais là, on va avoir des couleurs beaucoup plus claires. Moi, ce que je recherche, c'est le côté vineux, donc comme on disait à l'instant, vineux et gastronomique. Donc, avec le grenache noir, le pressurage direct va donner déjà une petite couleur.
Oui.
C'est la petite couleur un peu saumonée, alors que la Syrah et le grenache vont donner la Syrah et le Carignan, pardon,
oui,
vont donner des couleurs beaucoup plus rouges, beaucoup plus framboises.
Et on
framboises.
En arrive à cette jolie couleur, oui, avec des reflets framboises, cerises, j'allais le dire.
Exactement.
Cuvée exceptionnelle, la très très bonne nouvelle pour tous les auditeurs qui nous écoutent, c'est le prix de cette cuvée éphémère. Là, on a goûté le 2017. Une petite idée, alors, évidemment, Jérôme Gagnès est au courant, Yves Legrand, je crois aussi, à l'Esterel. Un prix pour ce rosé de gastronomie.
11 euros ?
Eh bien, il faut descendre.
Alors, je vais y penser.
Non, c'est le côté parisien.
Il est à 7 euros départ domaine ou chez tous les cavistes du département.
7 euros pour ce cuvée qui est une vraie belle sensation, avec modération évidemment pendant l'été. Venons-en à pas mal de réactions de nos auditeurs sur la façon de déguster le rosé, les clichés que l'on se fait autour de ce vin. La température de dégustation, alors là elle est peut-être pas idéale dans la mesure où vous l'avez apporté, j'imagine, bien rafraîchi dans le studio dont on va déguster, mais globalement, la température de dégustation pour un rosé, en partant du principe que c'est un bon rosé, en partant du principe que c'est un vrai vin.
Que c'est un vrai vin. Donc,
Faut-il le boire frais ?
Alors, il faut le boire frais, mais pas glacé.
Mm-hmm.
Il faut le boire rafraîchi, comme on dit. Moi, je dirais qu'entre 8 et 12 degrés, après, ça va dépendre des circonstances. Si on choisit de le prendre en apéritif ou avec une petite charcuterie catalane comme celle que je vous ai amenée ici, vous allez le servir à peu près à 8 degrés. Après, si vous voulez le prendre véritablement sur un plat, sur un chai dont je vous parlais, le fameux agneau, vous allez pouvoir le servir un petit peu plus chambré. Et si vous êtes sur un millésime un peu ancien, 2016 ou 2015, alors là, vous pourrez carrément le servir à 12 degrés.
Yves Legrand, on a l'image dans nos apéritifs d'été, des bouteilles de rosé plongées dans le bac à glaçons. Est-ce que c'est une image qu'il faut combattre ? Est-ce qu'on boit le rosé trop frappé ?
Le vin, c'est comme les gens, on peut comparer. Et on a besoin de se rafraîchir, mais jusqu'à se tremper dans un seau de glace, bon, on peut le faire éventuellement le jour de l'an.
Bah, quand c'est pas bon, c'est toujours meilleur à 4 degrés. Hein.
Voilà.
C'est-à-dire, est-ce que
Jérôme est beaucoup plus direct.
Non, mais Jérôme met la main sur un problème important. Oui. Est-ce que le froid ne peut pas être un cache-misère ? Est-ce que le froid ne peut pas être la seule solution pour atténuer les défauts d'un rosé qui n'a pas beaucoup d'intérêt ?
Est un cache-misère et le froid abîme. Hélas, on trouve quand on va dans certains restaurants des rosés que je connais bien et qui sont abîmés pour être restés au froid beaucoup trop longtemps. Encore une fois, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le vin rosé, c'est l'égal de grands vins rouges et de grands vins blancs, et ça se traite de la même façon.
Ouais, enfin, ça Yves, d'accord, Jérôme, oui, on est d'accord là-dessus sur le fait sur les rosés dont nous parlons aujourd'hui, sur les très bons rosés. Il y a une masse de vins rosés qui sont totalement indigents.
Jérôme, je vais t'interrompre. On n'a pas assez de temps pour parler des bons. On va se dispenser de parler des mauvais.
On est d'accord.
Ah, on hein
mais simplement quand même pour dire que si les gens aujourd'hui mettent des glaçons dans leur rosé, c'est parce que c'est quand même majoritairement de la merde. Et que donc, on met des glaçons parce qu'on s'en fout.
C'était la question de notre réalisatrice Camille Blanet, juste derrière la console de l'émission, qui se demandait s'il était autorisé, mais c'est vrai que c'est un geste qu'on voit très couramment quand on passe des vacances dans le sud et même ailleurs, des glaçons dans le rosé, parce que le rosé a fonction de boisson désaltérante.
Parce que juste, je laisse Yves répondre, je voudrais simplement dire une chose. Est-ce qu'on voit des gens mettre des glaçons dans du vin rouge ou dans du vin blanc? Quasiment.
Alors,
jamais.
Justement, Jérôme, il faut être pragmatique. Si tu as du vin qui est chaud et qui fait 13 degrés, que la seule solution que tu aies, c'est de mettre un glaçon dedans, eh bien on met un glaçon dedans.
Non mais ça c'est l'exception Yves.
C'est l'exception.
Plein de courriers et plein de mails sur l'adresse onvadéguster@radiofrance.com. Esterel, quelques conseils d'ailleurs de cuvées.
Alors en fait, nos auditeurs sont vraiment très très fans de rosé. Ils nous proposent leur cuvée préférée. On a Marilus Guilini qui nous propose de l'OVNI rosé de la maison Moura en Vendée.
D'accord.
Rose pâle, bouteille avec bouchon blanc, 9 euros la bouteille.
D'accord.
Ça.
Bon.
Voilà.
Une découverte. Il fait la grimace, Jean.
Non, je fais pas la grimace.
On est heureux pour cette dame.
On est
qu'elle se réjouisse avec son rosé qu'elle aime beaucoup.
Eh bien, le rosé invitation aussi de Philippe Pontier à Pressac, région de Cahors, Château Les Gros Îles de Cépage, Malbec, 20 IGP Côte du Lot, moins de 9 euros la bouteille.
Jamais dégusté, donc ça, je.
On va regarder.
Et puis Christophe Sibyl qui nous suit assidûment sur Twitter.
Fidèle de chez Fidèle.
Qui lui est un accro du gris de Fétio, de chez Michaud dans le Loir-et-Cher.
Il a raison.
Alors là, en l'espèce, c'est vraiment. Alors pour le coup, oui, c'est un joli rosé. J'ai le domaine Michaud, c'est un domaine qui travaille plutôt pas mal. Et c'est un vrai rosé d'été, ça. Frédéric nous livre aujourd'hui un rosé charnu, gourmand, avec de la profondeur, vineux. Là, c'est vraiment un rosé d'été à boire sans glaçon.
Il a bon goût, notre ami Christophe Civil.
Surtout que Michaud est en biodynamie, je crois.
Oui.
Ce qui est,
Oui, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois.
Je crois qu'il faut aussi prévenir
Yves Legrand,
l'auditeur. Demandez des vins en bio ou en biodynamie. C'est vous le consommateur.
Oui,
il est totalement insupportable qu'aujourd'hui encore 95% de la viticulture soit nourrie avec des produits phytosanitaires. Donc soyez exigeants, demandez du bio.
Justement, Frédéric Vaquet, votre position culturelle.
Oui, ma position culturelle.
En un mot, hein.
En un mot ou deux, ça sera étroit.
Vraiment...
Allez, raisonné, raisonnable, responsable. Le plus naturel possible.
Mm-hmm.
Le travail se fait à la vigne et à la cave le plus naturellement possible.
Mm-hmm.
On va dire que il est quand même important pour un vigneron de récolter des beaux raisins.
Oui.
Et on se donne tous les moyens pour le faire. Encore une fois, le plus naturellement possible.
Donc on évite le plus possible les produits chimiques.
Tout à fait.
Bon, eh bien écoutez, c'est dit, ce qui ajoute un charme fou à votre éphémère 2016. Éphémère parce que la bouteille tient pas très longtemps, c'est ça ?
C'est ça, éphémère parce qu'il ne reste jamais longtemps dans le verre.
Eh bien voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Avec modération encore une fois. La chronique cuisine d'Estherelle Payani.
On va déguster.
Elle n'aime pas le rosé, notre amie Estherelle Payani, mais par contre, elle n'aime pas le gâcher.
Et non, alors j'en ai fait un gâteau. Et puis surtout, comme Podane dans son cake d'amour, j'ai chanté en le préparant. Osez le rosé, Joséphine. Osez le rosé, Joséphine.
Elle est jolie, celle-là.
Comme aurait pu le chanter Bachung et toutes les sirènes du marketing.
Oui,
parce qu'avec
vrai.
Le rosé, malheureusement, on tire le gros lot sur les clichés concernant les femmes et le vin. Certainement à cause de sa couleur, qui n'a d'ailleurs pas toujours été associée aux femmes. Et il y en a qui disent « Je suis noire et je n'aime pas le manioc. Moi, c'est « Je suis une fille et je ne bois pas de rosé ». Au passage d'ailleurs, j'aimerais qu'on arrête de me parler de vin féminin, puisque je n'ai jamais vu, de mes propres yeux en tout cas, une foufoune au fond d'une bouteille.
Il est vrai que les stéréotypes ont quand même la vie dure.
T'as mal regardé.
Parce qu'il a pas assez bu.
On ne relance pas le débat sur vin féminin, vin masculin. Prière, c'était juste une petite parenthèse, une petite revanche d'Estherelle Payani. Les stéréotypes ont la vie dure en matière de goût.
Mais oui, surtout qu'avoir le droit de boire du vin a été l'un des premiers actes d'émancipation féministe, quand bien même il y a des vigneronnes depuis bien plus longtemps encore. C'est ce que m'a d'ailleurs confirmé Florence Monferrand, qui est historienne et vigneronne du Clos des Mièges, entre Sète et Montpellier. Actuellement, presque la moitié des Françaises boivent du vin,
oui,
sont responsables de 78% des achats de vin en grande surface,
ah, quand même,
et sont 64% à préférer le vin rouge. Comme quoi, je ne suis pas la seule.
Mais vous savez que ça arrive à des gens très bien, Estherelle, de ne pas aimer certaines choses, hein, détendez-vous.
Oui, mais bon, moi j'en ai ras la carafe de m'entendre systématiquement proposer au resto un verre de rosé ou un blanc léger pour madame. Moi, je veux un vin qui aille avec mon plat, peu importe sa couleur. D'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, on m'a encore fait le coup du sommelier qui ne propose la carte des vins qu'à monsieur et qui n'a même pas demandé qui voulait goûter. Comme le disait Pierre Desproges.
Ah, attention.
Pourquoi
ouvrez les guillemets.
En respect imbécile des plus usés des traditions phallocratiques, que les sommeliers de nos meilleurs restaurants s'obstinent à faire goûter d'emblée leur cru au Tarzan poil aux pattes, après avoir planté l'insultante carafe d'eau quasiment sous le nez souvent génial des pauvres Jane. Je vous demande pardon, monsieur, mais dans ma famille, ce sont les femmes qui font les gosses et qui goûtent les vins.
C'était bien dit, je la connaissais pas cette citation de Pierre Desproges.
C'était en 1985 dans Cuisine et Vins de France. C'est repris dans son petit best-of Encore des nouilles, qui est reparu il y a quelques années. Donc il y a encore du boulot de tous les côtés, et il y a d'ailleurs une association qui fait un très bon boulot, qui s'appelle Women Do Wine, qui est une association de femmes qui aiment ou produisent du vin et luttent contre les stéréotypes, dont
bien,
je fais partie.
Voilà,
ben voilà, et moi aussi.
Et saluons Women Do Wine. Si vous n'aimez pas le rosé, qu'est-ce que vous faites ici au juste, Estherelle ?
Je fais les fonds de bouteille. Enfin, pas en les buvant, mais en les cuisinant.
Oui.
Parce que parfois, après une soirée, il y a de quoi faire. Voilà quelques petites astuces que j'ai testées quand
Attention,
même.
Les tours de main d'Estherelle.
Tout d'abord,
avec du vin rosé, hein.
Ça marche à peu près avec tout, vous allez voir.
D'accord.
La vinaigrette, ça c'est un truc que j'ai appris à Bordeaux, dans la région bordelaise. C'est mon amie Anne Lataillade qui a le blog Papy et Pupille, qui vient de sortir un livre qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» chez Hachette, où on retrouve ce petit tour de main. Elle en met dans la sauce de la salade. Au lieu de mettre du vinaigre, paf, directement 2-3 cuillères à soupe de vin rouge. Ça marche super bien.
Sinon, on a
bien.
Pas mal d'adresses de vin rosé à lui qui se trouvent aussi bien du vinaigre.
Non mais c'est vrai que c'est une bonne idée avec l'acidité, ça peut apporter une rondeur aussi, un certain fruit.
Puis si jamais vous avez un vinaigrier, vous avez une étape intermédiaire, là vous pouvez la zapper.
On a plein d'adresses devant.
Oh là là,
deuxième possibilité, la marinade. Alors certes, il faut de beaux restes pour faire une daube, et en fait plutôt des restes de Nabucodonosor que de fillettes.
Oui.
Mais pour un barbecue, faire mariner les grillades dans un fond de blanc, de rouge, de rosé, avec quelques herbes, ça leur apporte un supplément d'âme. Évidemment, on peut aussi les ajouter dans une sauce, dans le courbouillon
c'est
du poisson.
Idée, ça.
Ça marche sur le vin blanc ou le rosé. Le rosé dans le courbouillon de poisson, ça marche super.
Très bien.
Troisième option, François-Régis, je vais vous demander d'aller vite mettre Jérôme en position latérale de sécurité, parce que c'est
allongez-vous.
Le glaçon,
allongez-vous.
La troisième possibilité.
Il fournissait des boules caisses à Jérôme Guignez. Allez, c'est quoi cette troisième option?
Eh bien donc c'est le glaçon, parce que
Jérôme
le vin...
Jérôme n'est pas un glaçon.
Le vin, c'est quand même 80 à 85% d'eau.
Non mais attendez, vous transformez le vin rosé en glaçon, c'est ça que vous voulez
quand
dire?
Quand il m'en reste, je le colle dans le bac à glaçons. Ça se congèle bien. Si c'est du rouge, on peut s'en servir pour déglacer une poêle, effectuer votre steak, paf, vous le rajoutez, il n'est pas perdu. Ça se conserve quand même 2 à 3 mois comme ça. Le rosé aussi, vous pouvez en faire les glaçons et le coller dans votre rosé piscine, mais ça, je ne veux pas savoir, parce que là, on touche le fond de la piscine, justement.
Oh, pas mal.
Oh, joli.
Non, mais attendez, les rosés, le petit glaçon de vin rouge dans des fonds de bouteille qu'on utilise ensuite pour déglacer en cuisine, etc., ça me paraît tout à fait cohérent.
Ah oui, bien sûr, c'est voilà. Une très bonne idée.
Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout est transformé.
Un gâteau aussi, possible ?
Et alors, je vous ai apporté un gâteau que je fais historiquement au vin blanc, mais que j'ai testé au vin rosé aujourd'hui.
Non, mais attendez.
Ça s'appelle le cake à la fin de bouteille. Alors vous allez voir, ça ressemble à un cake ordinaire. Je vous fais tourner. C'est très, 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 très simple.
Mais c'est surtout très, 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 très bon et très moelleux.
Alors là, ce coup-ci, en plus, j'ai fait avec de l'huile d'olive. J'ai joué la carte rosé huile d'olive, mais vous pouvez la faire vin blanc, huile de tournesol.
J'adore.
Non, avec de l'huile, comme ça se conserve bien.
Ou de la mayonnaise.
Sucré,
ça sera pour une prochaine, émission.
C'est un peu sucré.
Ça rajoute du sucre, le vin. Hein. Et si on ne sait pas que c'est du vin, je trouve que c'est difficile de reconnaître l'arôme.
Comment vous vous y prenez, Starelle?
Alors, vous battez 3 œufs avec 180 g de sucre. Vous rajoutez dedans un petit peu d'extrait de vanille quand même.
Oui.
10 centilitres d'huile, donc tournesol ou huile d'olive selon votre goût.
D'accord.
250 g de farine tamisée avec un demi-paquet de levure chimique ou un peu de bicarbonate de sodium.
Ah, absolument, pour que ça lève un peu.
Et quand la pâte est bien formée, vous délayez petit à petit en fouettant avec 15 centilitres de vin. Donc, il faut qu'il vous en reste un bon verre, finalement.
Donc, rosé de préférence.
Du rosé.
Et ça peut être du blanc.
Du blanc. Ça peut même être du champagne. J'avoue, je le fais souvent pour les fêtes de fin d'année, quand il m'en reste.
Et là, on délaye, en fait, sa pâte
on
à gâteau.
On délaye la pâte à gâteau.
Il y a la farine, les œufs.
Vraiment, c'est une base de cake
avec
très traditionnelle.
Avec 15 centilitres de vin. Voilà une bonne idée.
Et le fait qu'il y ait de l'huile et pas du beurre, ça rajoute au moelleux, en fait. Vous faites cuire dans un moule à cake 50 minutes. C'est assez long à cuire, hein, à 180 degrés. Là, moi, j'ai rajouté des petites framboises. J'en ai fait un autre morceau de cerise. Vous pouvez rajouter des pépites de chocolat. Vous le parfumez comme vous voulez. Mm-hmm. Et vous l'apportez à la fête de fin d'année de l'école en disant c'est moi qui l'ai fait.
C'est délicieux. Un petit commentaire, Frédéric Vaquet, plutôt que de faire des messes basses à votre voisin Jérôme Guignez. Qu'est-ce que vous pensez de ce gâteau ?
Je le trouve très bon. Très très bon. Et effectivement, moi aussi, il m'arrive souvent d'utiliser les fonds de bouteille pour faire des marinades. Et avec du vin rosé, je me souviens avoir fait mariner des cuisseaux de sangliers. Parce que à Tresserre, c'est les Aspres, il y a beaucoup de sangliers
Qui viennent manger.
Qui font beaucoup de dégâts.
Et dans les vignes.
Manger les vignes, ouais. Et donc, ce qui fait qu'on a la chance d'avoir pas mal de sangliers. Et une marinade de sangliers, au lieu de le faire au vin rouge, vous le faites au vin rosé ou au vin blanc, avec ensuite un peu de farine de châtaigne pour.
Oh, la belle idée.
Ouais, et ben c'est.
La nourriture du sanglier.
Ah, c'est beau ça.
Et ben écoutez, c'est une très bonne idée. On retient ce petit tour de main marinade, mais j'espère que ça ne se fait pas avec le rosé éphémère, car il ne doit pas en rester beaucoup au fond des bouteilles chez vous.
Non, il n'en reste jamais.
Voilà, ça en dit long sur la qualité de votre vin, évidemment. Dans un instant, on continue cette conversation autour du rosé, son succès, ses secrets, les belles cuvées que va nous conseiller Yves Legrand, car elle est arrivée avec quelques quilles pour vous, chers auditeurs. Et puis Jérôme Guignez, évidemment, va nous expliquer pourquoi il a un problème avec les rosés de Provence, et il nous conseillera éventuellement quelques alternatives.
Oui, exactement, des vrais vins.
Tout ça, c'est après Lana Del Rey, Doin' Time. Bel été sur France Inter.
Summertime, and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we're gonna run to the party and dance to the rhythm, it gets harder. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC.
take this veil from off my eyes. My burning sun will someday rise. So what am I gonna be doing for a while? Said I'm gonna play with myself. Show them how we come off the shell. Summertime.
Déguster les saveurs de l'été.
Le vin rosé en voit de toutes les couleurs sur le plateau dont on va déguster. Et en parlant de couleurs, justement, tiens, toutes les couleurs du rosé sont dans la nature. Depuis le vermeil très clair jusqu'au rouge cerise, en passant par le fameux œil de perdrix.
Exactement.
Comment expliquez-vous, Yves Legrand, qui est notamment cette grande mode, cette préférence pour les rosés pâles?
Vous avez dit le mot mode. Mm-hmm. Le rosé, c'est un nuancier avec plein de subtilités.
Oui.
D'abord sur le plan visuel et sémantique, on a des couleurs qui sont en intensité et en nuance. D'ailleurs, on peut comparer les mêmes nuances que sur le papier. On a 7 couleurs principales, mm-hmm, qui va du rose très pâle jusqu'au rouge cerise. C'est-à-dire qu'entre un vin blanc un tout petit peu teinté et un vin rouge jaune, le rosé s'étend là. C'est bien la preuve que c'est un vin absolument comme les autres, complètement décomplexé. D'ailleurs, le consommateur s'y reconnaît, que ça soit au niveau de l'élaboration, Frédéric nous l'a expliqué, ou au niveau du prix, parce que je pense que ce qui intéresse le consommateur, c'est le prix.
Mais justement, on va parler prix dans un instant. Jérôme Gagnès, votre avis sur cette préférence peut-être plus ou moins consciente en fait. Quand on va chez un caviste, on a tendance à se tourner plutôt vers le rosé pâle. C'est plus rassurant qu'un rosé plus foncé?
Mais c'est-à-dire qu'en fait, en dehors de l'effet de mode dont Yves vient de parler, il y a aussi le fait que inconsciemment, un rosé à la couleur extrêmement légère apparaît comme un vin plus léger. Or, il n'en est rien. Quand on regarde la teneur en alcool d'un mauvais vin rosé hyper palichon, il va titrer 13 ou 13,5, au même titre qu'un rosé foncé titrera 13 ou 13,5. En l'espèce, celui de Frédéric aujourd'hui, t'es à 13, bon voilà.
Avec la cuvée éphémère.
Moi, je vais parler d'un rosé tout à l'heure qui est beaucoup plus foncé, on est à 12,5. Donc en fait, il y a au fondement de tout ça, à mon avis, il y a une erreur d'appréciation et il y a un préjugé faux.
Yves Legrand, vous évoquez la question des prix, c'est une question évidemment essentielle pour les auditeurs, consommateurs qui nous écoutent. Certains de nos auditeurs d'ailleurs évoquent les prix élevés de certains domaines hôtes ou minuti pour ne pas les nommer.
C'est insultant pour hôte de le mettre avec minuti. Hein.
C'est l'auditeur qui parle.
D'accord.
Et en l'occurrence, il évoque ces rosés dont les prix frôlent parfois les 30 €. Ces prix sont-ils justifiés par une qualité exceptionnelle ou est-ce du marketing?
Alors je réponds, ces prix sont justifiés parce qu'ils sont au prix marché, que ça soit l'un...
Ça, c'est une réponse de...
Ou l'autre.
C'est de la langue de bois, non?
Non, absolument pas. C'est-à-dire que les gens sont toujours surpris quand on leur... est-ce que on peut acheter un vin à un certain prix, mm-hmm, ou on peut pas? Je vais exagérer, mm-hmm, mais la palette des vins, c'est comme la palette des salaires. Voilà. Alors, si un vin coûte 1000 euros, on ne peut pas l'acheter, mais il n'est pas cher, il est à son prix, puisqu'il se vend très bien à 1000 euros.
D'accord.
Il faut arrêter de pleurer sur les réussites des vignobles que l'on peut critiquer, je suis pas le dernier d'ailleurs, mais si un vin se vend très très bien à 1000 euros, pourquoi on pleurerait pour qu'il se vende à 10 euros?
Je pose la question par différemment, contre, oui, allez-y.
Par contre, et là il faut revenir à des choses plus sérieuses, en dessous un certain seuil,
oui.
C'est-à-dire en dessous un prix public TTC avec une TVA quand même à 20%,
mm-hmm.
plus les charges et là, le prix de la bouteille, le transport et tout, quand on arrive en dessous 3 euros, 2 euros, 4,90.
Ça devient suspect?
C'est évidemment suspect.
Ah. Quel serait le prix minimum d'un rosé qu'on achète, par exemple, au rayon vin d'un supermarché, pour assurer une certaine qualité? C'est 4
Alors,
euros, 3-4 euros?
C'est pas parce qu'il sera à 4 euros ou 8 euros qu'il
sera forcément bon.
Qu'il sera forcément bon.
C'est pour ça qu'il vaut mieux aller chez un qualité.
Encore une fois, je vois le travail que font les 5500 cavistes en France pour sélectionner leurs produits et on fait des dégustations en permanence. Et donc, on assure. Quand un client... Je m'imagine le consommateur qui ne s'y connaît pas, qui a une palette de vin. Donc, quand il vient chez moi, si le rosé que je lui ai vendu est pas bon, il revient en disant « Monsieur Legrand, votre rosé, il est pas bon. » Voilà.
Frédéric Vaquet, vos vins, justement, vous privilégiez une distribution chez les cavistes, dans des
oui.
petits commerces.
Oui, tout à fait. Oui, oui. Je suis vigneron indépendant en Roussillon et
oui.
je privilégie les cavistes indépendants du département des Pyrénées-Orientales
mm-hmm.
ou de France. C'est un choix. On est artisan vigneron et on choisit des personnes qui sont capables de parler des vins qu'ils ont en rayon, de les connaître parfaitement et quelquefois d'organiser des réunions et des dégustations avec les vignerons. C'est ça qui est important, la rencontre du vigneron et du consommateur.
Yves Legrand.
Nous, cavistes, mm-hmm. nous sommes les intermédiaires, c'est le Tour de France, nous sommes les porteurs d'eau. C'est-à-dire que les vins, les grands vins, et le vin de Frédéric à 7,50 euros ou 10 euros, là, c'est un grand vin, sont portés par des gens comme nous. Nous sommes des intermédiaires, les majordomes des seigneurs.
Yves Legrand, vous êtes justement caviste à Issy-les-Moulineaux, à la tête d'une enseigne, le Chemin des Vignes, qui fête quand même ses 100 ans. C'est pas banal.
Nous sommes également vignerons, puisque nous avons planté 400 pieds de vigne à Issy-les-Moulineaux.
Oui,
et
c'est
fait
ça.
Renaître la confrérie Saint-Vincent à la place d'un immeuble,
oui.
tout immobilier, pas forcément. On peut aussi planter des vignes. Ça, c'est l'anecdote. Mais je me réjouis toujours quand les vignerons viennent voir ces vignes et qu'ils les trouvent belles. C'est un beau compliment.
Votre expertise familiale se développe donc, évidemment, à Issy-les-Moulineaux et bien au-delà, depuis une centaine d'années, ce qui vous donne le droit de nous donner un conseil en termes de cuvée rosée. Un rosé coup de cœur, s'il vous plaît. Vous en avez un sous vos yeux.
Alors écoutez,
vous nous en dites un mot.
Il faut se réjouir vite parce que, comme disait Omar Khayyam, bois, tu devras vivre sous la terre, dormir plus que ton content, sans compagne et sans confrère.
Donc ça, vous évoquez un poète persan.
J'évoque un poète persan du XIe siècle.
Oui.
Musulman, ça serait l'objet d'une autre démarche, c'est pas le sujet
oui.
aujourd'hui. Et là, j'ai sous les yeux une star qui met sur sa porte ni visite, ni dégustation, c'est Dominique Ovetz au Beau de Provence.
Décrivez-nous la couleur.
Bien.
Ah, Frédéric Vaquet, décrivez-nous cette couleur, elle est assez unique, il y a des reflets un peu cuivrés.
Il y a des reflets cuivrés, on a des reflets qui sont presque, on a l'impression que c'est de l'or.
2016. C'est de l'or. C'est un produit précieux.
On a du mal à prendre
surtout,
du rosé, en fait.
Surtout, c'est un produit qui, dans son élaboration, n'a connu aucune intervention, évidemment, ni chimique, parce que c'est en biodynamie, mais ni aussi technique. C'est uniquement par gravité. Dominique Ovetz a une philosophie.
Absolument.
C'est le temps qui fait le vin. Ça n'est pas le marché.
Il est bien ce vin, les Domaines Ovetz, les Beaux de Provence en 2016 cuvée Petra, en voilà un rosé qui a du caractère, Jérôme Gagnez.
Ouais, ça c'est une splendeur, ça
bon,
c'est un très beau vin.
Je pense qu'on va déchanter quand vous allez nous annoncer le prix.
Non, c'est son prix, 25 euros.
25 euros pour un rosé, bon ça commence à faire un peu.
Oui, mais sauf qu'on est bien au-delà du rosé là.
Bien sûr, on est bien au-delà du rosé, on est un vrai vin de gastronomie.
À l'aveugle, et d'ailleurs, on n'est pas sûr de dire que c'est un rosé.
Mais justement, question que nos auditeurs se posent pas mal, à l'aveugle, est-ce qu'un rosé est identifiable?
Eh bien pas forcément, parce que j'ai fait une expérience
Frédéric
deux années de suite avec mon ami Laurence qui est à l'auberge du Cheval Blanc à Pontoise. Et nous avons fait une dégustation en toute conscience, c'est-à-dire... un peu comme en sophrologie. On a goûté, senti, fait rouler le vin dans le palais et le côté aromatique, tout ça en fermant les yeux. Et alors c'était assez impressionnant parce que le public qui était là a été, on va dire, quelques-uns ont trouvé que c'était du rosé, mais la majorité nous disait, ah ben c'est soit du blanc, soit du rouge.
C'est dingue, 50-50.
C'est dingue.
Soit en blanc, soit en rouge.
Donc incroyable. Ce qui veut dire que quand on a des rosés, entre guillemets, un peu particuliers, et des vrais vins qui ont chacun leur personnalité et qui reproduisent la personnalité de la vigneronne ou du vigneron qui le vinifie, on peut avoir des vins qui sortent complètement des sentiers battus et qui sont des grandes découvertes à faire et à proposer autour de nous, bien sûr.
Preuve que le rosé peut être un vin blanc un peu teinté ou un début de rouge. Donc on est un peu entre les deux dans cette zone un peu intermédiaire. Il y a eu une polémique il y a une dizaine d'années sur l'idée au niveau européen. Il y avait un projet de règlement qui pouvait autoriser le mélange du blanc et du rouge pour faire du rosé. Heureusement, il y a eu une résistance. On ne peut pas utiliser cette méthode, sauf bien sûr en Champagne, hein, où il est autorisé de mélanger des jus rouges et des jus blancs.
Il y a plein de trucs autorisés en Champagne.
Oui. Voilà une action positive. Oui. 2009, effectivement, un décret aurait pu faire en sorte que le rouge, le blanc soit, le rosé soit fait avec du rouge dedans. Il y a eu une levée de la part des vignerons qui se battaient depuis des années pour faire du vrai rosé. Mmh. Et ils ont gagné. Et c'est la déléguée européenne anglaise qui a refusé le décret. Merci les Anglais.
Jérôme Gagnès, voilà le domaine Auvette, les Baux-de-Provence, preuve qu'on peut faire des bons rosés en Provence, parce que vous avez eu plusieurs fois dans cette émission des propos un peu amers à l'égard des rosés de Provence qui sont, en termes de production, de volume, les plus importants en France.
Oui, non, j'ai pas eu des propos amers, j'ai simplement signalé qu'il y avait 90% de trucs qui étaient indigents, c'est tout. Évidemment,
autant
si on
ça.
Parle... Oui, oh, bah, encore, je pense que je suis en dessous de la vérité. Si on parle de Auvette, évidemment, j'ai reçu un courrier du président des vignerons de Provence qui me disait que je jugeais fort mal les vins de les vins rosés de Provence. Je m'excuse auprès de ce monsieur, qui est très estimable, mais il m'envoie deux bouteilles à l'appui de ce courrier, dont l'une fait figure aussi d'exception, puisque c'était le rosé Corail de Raymond Villeneuve du château de Roquefort. Évidemment, si on prend comme exemple ce rosé-là, oui, c'est sûr que si tous les rosés de Provence étaient comme celui-là, on n'en parlerait pas de la même façon.
Vous voulez dire
on
n'y
mettrait pas des glaçons.
La Provence serait plutôt tournée vers des vins assez technologiques, parfois même décolorés au charbon.
Oui, vers des vins qui sont très technologiques, des vins qu'on fait en pensant au marché et pas en pensant à son terroir. En tout cas, après, on peut nous faire des grands discours comme quoi les vins de Provence, il y a des terroirs spécifiques. Moi, je veux bien qu'on me raconte la messe, mais je suis pas lapin de 6 semaines, donc il y a un moment. Non, c'est pas vrai. La plupart des vins sont faits pour toucher un public. On a un nuancier, on met de la couleur. On va cette année, c'est quoi la couleur un peu à la mode. Voilà. Et résultat des courses, les gens ensuite mettent des glaçons dedans parce que franchement, c'est de la merde, donc ils mettent des glaçons dedans. Et après, les gens disent on est étonné parce que les gens pensent que le rosé c'est pas du vin. Faites du vin. Les gens mettront pas des glaçons dedans. Le consommateur est pas complètement con non plus. Faut quand même pas non plus.
On ferme la parenthèse sur les rosés de Provence. En tout cas, vous êtes arrivé avec
mais
du vin.
Pas que de Provence. Oui,
bien sûr.
En l'occurrence, oui. Mais pas que de Provence. Il y a des très bons vins. En Provence. J'ai même d'ailleurs une grande région
c'est
de blanc et de rouge.
Du rosé, ouais.
C'est une très grande région de blanc et une très grande région de rouge.
Allez-y, vos vins, vous avez des propositions à nous faire, Jérôme Gagnès.
Oui, monsieur. En l'occurrence, on commence avec un vin qui vient du sud-ouest, qui vient de l'Aveyron.
Oui.
C'est un domaine que j'aime beaucoup, qui s'appelle le domaine du Croc.
Ah, ça sent le Marcillac, ça.
Exactement, un Marcillac de Julien et Philippe Tellier.
Très belle famille.
Oui, très belle famille. C'est 30 hectares de vignes. C'est des vignes qui sont en terrasse. C'est très difficile à cultiver. Et on a ici un rosé de macération qui est l'eau sang del Pais 2016. C'est un vin qui est issu d'un cépage qui a trois noms. Il s'appelle le Mansois en Aveyron, il s'appelle le Fer Servadou un peu partout ailleurs où on en trouve, et il s'appelle le Brocol à Gaillac chez l'ami Bernard Plajol qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps sur cette antenne.
Un cépage oublié transformé en rosé au domaine du Croc, un rosé de saignée.
Voilà, un rosé de saignée, c'est vif, c'est acidulé, il y a du fruit, il y a de la chair, c'est l'archétype du vin rosé 4-4, c'est-à-dire qu'on peut commencer à l'apéritif, on peut terminer avec un petit fromage. Moi, je suis pas fan des vins secs sur les desserts, donc je m'abstiens pour le dessert, je bois de l'eau ou autre chose. Mais le fait est, c'est que c'est un vin qui accompagne tout un repas.
Et à 2h du matin, en regardant les étoiles filantes.
Exactement. Et d'ailleurs, c'est l'archétype même des vins qui sont parfaits en magnum quand on est deux et que l'autre ne boit pas.
Donc, s'il vous plaît, avec modération.
Ah oui, avec modération qui restera.
Et
dans
poésie
la
sous les étoiles.
Voilà.
Je remarque que Jérôme, que je connais depuis des années, est toujours dans la nuance.
vous l'avez bien cerné.
Et donc voilà un très joli vin à 7,50 euros départ.
7,50 euros.
5,50 euros départ du domaine. Donc voilà, c'est à peine plus cher que le vôtre.
Que le mien, avec une très jolie note florale, j'ai remarqué.
Voilà, exactement.
Mmh. Et là, vous avez fait goûter le 2016.
Et j'ai fait goûter le 2016, exactement. Les 2017 suivront. Mais voilà un vin qui a toujours un an de bouteille supplémentaire avec bonheur, parce que c'est vraiment, ça lui va très bien. Donc, le Marcillac Lausanne del País 2016 rosé, 7,50 euros départ du domaine du Croc. Voilà vraiment un très joli vin d'été et on peut faire le plein, ça se commande par wagon.
De toute façon, toutes les références des vins qu'on vous conseille aujourd'hui pendant l'émission sont sur franceinter.fr à la page
On va déguster. Pour les desserts, tu disais que tu ne savais pas quoi boire sur les desserts.
Si, je sais quoi boire, mais je ne bois pas ça.
Ah, parce que moi, j'allais te proposer toute la palette de vins doux naturels que nous avons dans le Roussillon.
Évidemment.
Ah, bien sûr, évidemment.
Ensuite, on poursuit avec un rosé qui est un peu moins démocratique par son prix. Un auditeur nous le signalait d'ailleurs, monsieur Bartoumieux. Eh bien, il a tout à fait raison, ce monsieur Bartoumieux, parce que je vais vous parler d'un vin exceptionnel qui s'appelle le rosé des Rissets.
Oui.
Le rosé des Rissets, ça vient d'une commune qui est située dans la Champagne méridionale, dans l'Aube. C'est la plus vaste commune viticole de Champagne. Il y a 866 hectares qui sont consacrés au vin sur cette commune, dont 350 hectares qui sont potentiellement consacrés à la production de ce vin rosé. Il n'y en a aujourd'hui que 50 qui sont réellement exploités. C'est une toute petite production et pourtant ce vin, la notoriété, la très grande notoriété de ce vin remonte au XVIIe siècle. C'est un vin réellement extraordinaire. C'est que du pinot noir et c'est un vin... Pardon, je n'ai pas ouvert la bouteille.
Parce que je voudrais que Yves Legrand le goûte.
Et c'est un vin qui vient du domaine Olivier Oriot. Ça s'appelle le Rosé des Rissets en Valingrin 2013. C'est vraiment un vin exceptionnel parce que c'est des vins qui se conservent très longtemps. Il y a une vraie garde. J'ai bu des 2004, j'ai bu des 98, j'ai bu des vins qui avaient plus de 20 ans. Je ne viens pas sur le détail de la vinification. Simplement vous signaler que c'est un vrai rosé de gastronomie, de garde. En réalité, c'est comme un vin rouge très léger. Donc ça se boit très aimablement.
Il reste tranquille, on est d'accord.
Il est tranquille, il n'y a pas de bulle. Et si vous voulez en savoir plus, il y a un livre qui vient de sortir, qui est une somme d'informations qui est admirable, qui s'appelle « Rosé des Rissets, tradition et exception en Champagne » de Claudine et Serge Volikoff. Ça vient de sortir. Je n'ai pas la maison d'édition sous les yeux, je vous prie de m'en excuser, mais vraiment, c'est un livre qui est très intéressant.
Et on épelle Rissets.
Et on épelle Rissets, R-I-C-E-Y-S. Encore une fois, c'est une toute petite production aujourd'hui. Elle doit se développer parce que c'est un rosé qui est tout à fait singulier, tout à fait à part. C'est vraiment un très beau vin.
On est autour de 25 euros la bouteille.
On est à 28 euros départ domaine.
Donc, très bien. Voilà. Un petit avis sur ce rosé des Rissets.
Ah oui, c'est absolument Frédéric délicieux. Vaquet. Et alors, c'est amusant parce que ça me rappelle, alors que ça n'a rien à voir au niveau des cépages, ça me rappelle les tout premiers rosés que j'ai goûtés au domaine Vaquet quand je suis arrivée de ma Bourgogne, puisque je suis d'origine bourguignonne.
Absolument.
Fernand avait des rosés qu'il gardait pendant plus d'une année en cuve avant de les mettre en bouteille. Il avait d'ailleurs quelques soucis avec l'appellation parce que l'IGP avait du mal à accepter ça. Mais on était sur ces arômes d'évolution, des notes de confiture de lait délicieuses.
Citez-nous juste le charcutier qui vous a fait don de ces charcuteries extraordinaires.
Je suis venue avec trois charcuteries délicieuses. On est sur Alperol Benjamin Puitch.
Oui.
Thibaut Gonzalez et la charcuterie les charcuteries du Paré.
Très bien. Merci à toutes et tous. On va déguster ces dimanches prochains à 11h, mais c'est aussi le samedi à 11h pour une collection d'émissions consacrée aux cuisines du monde. Samedi prochain, on fait un plongeon dans la Méditerranée à la découverte de la cuisine de la Tunisie. À samedi prochain, si vous avez encore faim.